19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Sophie et il y a Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Et donc, dans cette émission, nous entendrons Amélie et Nathan, qui représentent la Team Trans de Quasar. Et puis, nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, nous allons commencer par l'éditorial de Philippe sur notre rapport annuel 2021. Pourquoi le monde d'après n'a pas eu lieu?
Ce rapport est le fruit d'un an de recherche et couvre 154 pays. Riche d'enseignements sur l'état du monde, il dresse un constat implacable. Les grandes puissances ont aggravé les inégalités mondiales. Résultat, les pays dits à faible revenu et les populations les plus marginalisées ont été les plus durement touchées par la crise sanitaire. À la fin de l'année 2021, moins de 4% de ces pays présentaient un schéma vaccinal complet.
Et comment en est-on arrivé là?
Notre rapport pointe la paralysie des instances internationales qui ont favorisé la persistance ou la multiplication des conflits en Afghanistan, au Burkina, en Éthiopie, en Israël ou dans les territoires occupés, en Libye, au Myanmar ou encore au Yémen. L'invasion de l'Ukraine a révélé les terribles exactions des forces russes. Au moins 67 des 154 pays couverts par notre rapport ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté d'expression, d'association ou de réunion. Nous avons aussi enquêté sur un système mondial de cybersurveillance avec le logiciel espion israélien Pegasus.
Et qu'en est-il de la situation des réfugiés ?
En 2021, 84 millions de personnes ont quitté leur foyer, un nombre record. Le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, les crimes de guerre en Éthiopie, la situation au Myanmar ont par exemple entraîné de nouvelles vagues de déplacements. De la même façon, le conflit persistant en République démocratique du Congo a conduit à lui seul 1,5 million de personnes à abandonner leur domicile. Au Venezuela, c'est l'aggravation de la crise humanitaire et la pauvreté extrême qui ont conduit des milliers d'hommes et de femmes à quitter le pays cette année encore. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plus de 4,5 millions de femmes et d'enfants ont fui leur pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Il est important de rappeler que le droit d'asile reste bien sûr un droit universel.
Et quel est le bilan en matière de droits humains pour la France?
Notre devise républicaine a été mise à mal cette année. Liberté en 2021, des lois comme celle dite de sécurité globale ou celle intitulée responsabilité pénale et sécurité intérieure ont porté atteinte à nos libertés fondamentales, notamment celle d'informer et le respect de la vie privée. Nous avons également documenté de nouveaux cas de violences policières, comme lors de la free party de Redon. Égalité, en France, les contrôles aux faciès restent pratique courante. Le vote de la loi sur le respect des principes de la République fait craindre une hausse des pratiques discriminatoires et de la stigmatisation à l'encontre des associations musulmanes. Fraternité, les politiques d'accueil pour les personnes exilées restent très insuffisantes. La façon dont les autorités françaises ont répondu aux besoins de protection des populations afghanes n'a pas été à la hauteur des enjeux. La situation à Calais est toujours aussi catastrophique. Pourtant, nous avons les moyens d'accueillir dignement ces populations.
Et à 7 mois de la Coupe du Monde, où en est notre campagne contre le travail forcé au Qatar?
Depuis des mois, nous interpellons la Fédération Française de Football, la FIFA, organisatrice du tournoi sur les conditions indignes des travailleurs migrants dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde. Pourtant, sur le terrain, rien ne change ou si peu. Les agents de sécurité que nous avons interrogés sont pour certains soumis à une forme d'esclavage. Nous allons donc nous mobiliser à nouveau et intensifier notre campagne pour que le Qatar publie un plan d'action détaillé afin d'éliminer ces pratiques scandaleuses.
Mais surtout, non, baissons pas les bras, nous avons enregistré des victoires marquantes.
D'abord, nous avons obtenu justice pour George Floyd et puis des défenseurs des droits humains ont été libérés grâce à notre mobilisation. Loujain, Nassima, Samar, Germain Rukuki notamment. La solidarité l'a emporté avec la relaxe de Cédric Héroux et de Lohan Torondel. Des criminels de guerre ont été condamnés comme Ratko Mladic et le Syrien Eyad Al-Gharib. La peine de mort recule aux États-Unis et en Sierra Leone. Les droits des femmes progressent en Corée du Sud et en France avec l'adoption de la loi sur la PMA. Des journalistes ont obtenu justice comme l'égyptienne Solafa Magdi et le franco-algérien Taaf Bouhafs. Votre forte mobilisation a donc payé.
Merci Philippe.
Merci.
Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et nous allons maintenant accueillir Amélie et Nathan de la Team Trans de Quasar. Merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci de venir à notre émission.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonsoir, moi c'est Nathan, j'ai 23 ans et je suis bénévole au sein du pôle trans à Quasar.
Bonsoir, moi je m'appelle Amélie, j'ai 22 ans et je suis également bénévole au pôle trans de Quasar.
Alors cette année, le mot d'ordre de la Pride, c'est transidentité, stop à la psychiatrisation forcée. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce mot d'ordre ?
Le choix de ce mot d'ordre, en fait, il s'est fait suite à un constat que nous, personnes trans, avons fait, c'est que, en tout cas dans le département, c'est très très compliqué d'avoir accès aux soins dans un cadre de parcours de transition sans être forcé d'être psychiatrisé. Et ça, c'est plus possible pour nous.
Donc là, vous parlez d'Angers en particulier, du là, CHU.
Je parle d'Angers effectivement en particulier parce que c'est l'endroit où on va retrouver le plus de praticiens dans le département. Après, on n'a aucune possibilité autre dans le département de se faire accompagner.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous revendiquez en fait ?
Nous, tout simplement, ce qu'on revendique, c'est de pouvoir accéder à un parcours de transition beaucoup moins psychiatrisé, donc de ne pas avoir l'obligation de passer par un psychiatre pour accéder au parcours de soins total, notamment médicalisé. C'est-à-dire souvent ce qui se passe quand on va voir un endocrinologue, donc qui va nous orienter pour le traitement hormonal, on va nous réclamer une attestation psychiatrique. Sauf que ça, aujourd'hui, pour nous, c'est plus possible parce que ça rallonge le parcours de soins. C'est aussi une non-reconnaissance de notre avis et de notre ressenti personnel en termes d'identité. C'est une négation totale de notre existence et d'être maître de nous-mêmes, de notre existence, de notre corps, de notre vie, tout simplement.
Et la loi, elle dit quoi ?
La loi, elle dit qu'il n'y a plus obligation de nous imposer ce parcours. Or, dans les faits, il n'y a pas interdiction, ce qui fait que c'est un petit peu flou.
Et
il joue sur ce côté flou pour vous imposer cette psychiatrisation.
Tout à fait.
Et selon les régions, c'est un petit peu, le régime est différent.
Tout à fait, déjà parce qu'il y a une part qui est gérée en fonction des ARS. Donc régionalement, ça change un petit peu. Et puis de l'ouverture d'esprit en fonction des régions. En Bretagne notamment, c'est beaucoup plus ouvert.
Ah bon ?
Il y a moins de difficultés de façon générale, mais en même temps, l'accès aux praticiens est réduite puisque forcément il y a moins de, forcément même pas, et en tout cas il y a moins de praticiens, donc la répartition est un peu différente. Et puis dans le Maine-et-Loire en tout cas, c'est complètement bloqué. Nous en tout cas, les personnes que l'on reçoit, on est obligé de les envoyer, de les encourager, s'ils ont moyen d'être véhiculés, à sortir du Maine-et-Loire, parce que sur Angers c'est tout bonnement impossible.
C'est une question d'individus, d'après vous, de médecins qui ne veulent pas modifier leur vision des choses, ou comment ça peut se modifier en fait, comment ça peut changer ?
Alors à l'heure actuelle, il y a au sein du CHU Angevin, qui est maître du plateau technique du Maine-et-Loire, une RCP, donc une réunion consultative pluridisciplinaire qui a été mise en place. Et ils ont plus ou moins décidé d'imposer tout ce fonctionnement psychiatrisant au sein du Maine-et-Loire, ce qui fait que les praticiens sont un petit peu frileux à déroger à ces directives, on va dire ça comme ça.
D'autant que le psychiatre, vous ne pouvez même pas le choisir, je crois. Souvent, on vous donne son nom, quoi.
Et effectivement, on retransmet un nom particulier à aller consulter, sauf que ce praticien en question est assez long sur la prise en charge. Il y a beaucoup d'attentes, et puis en plus, le parcours jusqu'à l'obtention de cette fameuse attestation est excessivement long.
D'accord.
Oui,
j'ai même envie de rajouter qu'en fait, le fait d'inciter très fortement à suivre, à se diriger vers un praticien en particulier, ça met en péril le droit du choix du praticien, et ça, c'est juste pas acceptable, au-delà du fait de la transition.
D'accord. Et il y a aussi des difficultés dans le parcours administratif, je crois.
Effectivement, au sein du parcours administratif, on va être confronté à pas mal de difficultés. La première, ça va être déjà lorsque l'on va décider de faire un changement de prénom auprès de la mairie. On peut être confronté à divers comportements inappropriés, que ce soit sur la ville d'Angers ou sur d'autres villes ou communes alentours. Ont été constatés, en tout cas nous ont été rapportés à Quasar, de personnes ne voulant pas s'occuper des demandes de personnes transgenres parce que s'estimant pas qualifiées par rapport à ça et qui de ce fait renvoient les dossiers au procureur.
D'accord.
Qui n'a pas de sens et qui en fait va surcharger le procureur d'un dossier absolument inutile et qui peut être traité de la même manière que Pierre-Paul ou Jacques décide de changer son prénom parce qu'il a un prénom soit discriminant, soit dérangeant ou soit que l'on n'apprécie pas.
Ouais.
Mais du fait de la transidentité, on va avoir ces difficultés-là de parce que vous êtes trans, on n'est pas qualifié.
D'accord.
Au-delà de ça, oui, vas-y.
J'y ajouterais même, il y a une loi concernant le changement de prénom à effectuer en mairie qui indique que lorsqu'une personne transgenre fait la demande, elle doit être automatiquement validée à partir du moment où elle est motivée. Donc avec un texte explicatif de la personne qui explique, bah voilà, je suis une personne transgenre, je souhaite que mon prénom soit en adéquation avec mon identité, pif paf pouf, et normalement les choses s'enchaînent et tout se passe bien. Dans les faits, manifestement, nous on constate que ça se passe souvent pas comme ça, et que ces personnes qui refusent ce changement de prénom sont littéralement hors la loi, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bah, à part râler, pas grand-chose, parce qu'on s'en remet à eux, finalement.
Et donc, je suppose, pour changer le sexe sur les cartes d'identité ou à la sécu, c'est encore plus difficile que le prénom, je sais pas.
Effectivement, déjà, ça va être difficile parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas faire cette démarche-là auprès de la mairie. On est obligé de passer par un juge afin de faire cette démarche. Ce qui va complexifier la tâche parce que c'est juste un écriteau qu'on veut changer sur nos papiers d'identité. À savoir que cette petite mention n'était pas présente jusqu'en 1974 sur les cartes d'identité. Donc c'est pour ça que pour nous, en tant que personnes trans, on trouve ça... pénible et absurde de devoir le faire, parce que ça, en fait, ça, dans la société, ça change que dalle. Le seul truc que ça va changer, c'est au point de vue de la sécurité sociale, le 1 en 2 ou le 2 en 1, c'est du point de vue de la mise en garde de certains soins, de certains risques de maladie, là du coup on va être différent. Et encore une fois, pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi les hommes et les femmes ne devraient pas être aussi au courant les uns que les autres des différents problèmes de santé que l'on peut avoir?
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Oui, bien sûr.
Oui. On revient peut-être au parcours médical. Je crois qu'il y a une autre revendication, c'est que vous voulez aussi avoir le choix de votre transition.
En effet, on va avoir le choix de notre transition. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On veut avoir le choix, tout simplement, de pouvoir faire ou non une transition médicale, c'est-à-dire pouvoir choisir si je prends des hormones, pouvoir choisir si je fais des chirurgies, pouvoir choisir si je veux faire conserver mes gamètes, pouvoir choisir si je fais appel à orthophoniste ou à différents praticiens pour m'aider dans mon parcours de transition. Ça, c'est quelque chose qui est assez mal compris, dans le sens où dans l'inconscient collectif, une personne trans, elle va faire un parcours type. Le parcours type, il est de faire l'hormonothérapie, faire les chirurgies de torse et de sexe, donc soit augmentation mammaire, soit ablation mammaire, soit, et du coup, chirurgie de réassignation sexuelle. Or, dans les faits, tout ça, c'est que du facultatif. Tout le monde ne ressent pas le besoin de faire, telle ou telle intervention, parfois même aucune. Et c'est ça que nous revendiquons.
Oui, d'accord. Très bien.
À savoir également que cette mentalité, cette pression sociale que les personnes, de façon générale, non concernées par la transidentité, cette pression qui est engendrée sur les personnes trans, crée une dissonance aussi pour les personnes trans, parce que dans beaucoup de cas, nous, on reçoit des personnes qui viennent nous voir en disant « Ah bah oui, je sais que je dois faire ça, 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 ensuite il y a les chirurgies, etc. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Les personnes trans doivent s'écouter et avoir le droit de le faire. Il n'y a pas d'obligation, à savoir qu'en plus, souvent, la grande question, c'est « Ah, mais du coup, est-ce que cette personne trans est opérée ? Oui, non. » On s'imagine tout plein de choses, puisqu'il y a un rapport perpétuel, notamment à la sexualité. Or, il faut aussi rappeler qu'une chirurgie, c'est pas anodin, c'est lourd, c'est souvent douloureux, et obligé de, avec cette pression sociale, les personnes trans à faire des chirurgies, c'est dangereux, tout simplement. Oui, oui, on doit pouvoir laisser le choix aux personnes concernées
tout à fait.
De choisir, tout simplement.
Oui. Quelles sont les actions que vous menez pour faire connaître les violences dont vous êtes victime ? Angers, périphérie. J'ai vu que vous avez fait des campagnes d'affichage, non, récemment.
Alors effectivement, on a fait quelques campagnes d'affichage, dont une qui va s'installer très prochainement, à savoir celle de la Pride. Donc du coup, au sein de Quasar, plus particulièrement au sein d'Intime Trans, on va avoir plusieurs domaines d'activité. Donc comme je viens de le dire, l'organisation de la Pride. Ensuite, on va avoir différents groupes de parole. Donc on va avoir un premier qui va s'appeler Transparent, qui est destiné aux personnes proches des personnes trans. On va aussi avoir le Transat, qui va être uniquement pour les personnes trans concernées. On va aussi avoir un temps d'accueil le samedi après-midi, où là c'est pas uniquement la team trans, mais ça va être pour tout Quasar. Où là, peu importe qui peut venir, qui le souhaite, en fait. Et c'est grosso modo ce qu'on va faire au point de vue des gens de l'extérieur.
D'accord. Comment peut-on vous joindre, ou toute personne qui serait intéressée pour venir vers vous, en fait, vers la team trans, vers les transparents aussi?
Tout simplement, déjà, on va avoir le site internet, donc quasar.fr.
Oui, j'ai vu, il est très bien fait, il est très complet.
Donc là, vous allez retrouver la majorité de... Enfin, toutes les informations même. On va également avoir notre mail, donc... Qui se trouve sur notre site internet, mais c'est, si vous le voulez, c'est quasar@gmail.com, si je ne dis pas de bêtises.
Et puis il y a peut-être des numéros de téléphone aussi qu'on trouve sur le site.
Ouais, vous allez trouver également des numéros de téléphone sur notre site.
Il y a Facebook également.
On va avoir Facebook, on va être plus actif là-bas. On ne possède pas de Twitter à l'heure actuelle. Okay. On va être aussi actif sur Instagram. D'accord. Donc Quasar, vous allez nous retrouver dessus. Et ça va être à peu près tout.
Merci. Et le permanence le samedi après-midi, ouverte à tous de 16h à 19h.
Ouais. Merci Sophie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, et c'est l'heure de notre pause musicale.
Every day and every night, we'll be together.
venez d'entendre Is This Love, un titre mythique de Bob Marley and the Wailers datant de 1978.
Oh,
bah oui. Allez, vous êtes toujours sur Radio G101.5 FM et il est 19h21 et c'est le moment des actualités des droits humains. Tout d'abord l'Ukraine, bien sûr.
Ces dernières semaines, Amnesty International a rassemblé des éléments prouvant que les forces russes avaient procédé à des exécutions extrajudiciaires et à d'autres homicides illégaux. Ces actes doivent faire l'objet d'une enquête en tant que probable crime de guerre. Les témoignages recueillis montrent qu'en Ukraine, des civils non armés sont tués chez eux et dans la rue, dans des actes d'une cruauté innommable et d'une violence choquante. Une enquête approfondie doit être menée à propos de ces morts et les responsables doivent être poursuivis jusqu'en haut de la chaîne de commandement.
De jeunes étudiants étrangers en Ukraine se retrouvent aujourd'hui enfermés dans un centre de détention pour étrangers en Pologne après avoir fui la guerre. C'est ce que révèle une enquête de Radio France. Un jeune Nigérian a expliqué avoir traversé la frontière avec sa carte d'étudiant, son passeport étant resté à l'université pour des raisons administratives. Les gardes frontières polonais l'ont arrêté faute de passeport. Il est maintenant enfermé depuis plus de 3 semaines.
Au moins 6 détenus de la prison de New Bell à Douala sont morts de choléra depuis le 18 février. Le dernier en date, Rodrigue Dagéo Koufet, décédé le 7 avril, était en détention arbitraire depuis septembre 2020 pour avoir manifesté pacifiquement. Samira Douad, la directrice d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a déclaré que les autorités camerounaises devaient prendre de toute urgence toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir l'accès rapide à des soins médicaux adaptés à tous les détenus atteints du choléra et souffrant d'autres pathologies, bien sûr.
L'Iran est sous le choc d'un féminicide ultra-violent. La vidéo devenue virale d'un homme exhibant dans les rues d'Avas, dans le sud-ouest de l'Iran, la tête de sa jeune épouse Mona, qu'il venait de décapiter, a suscité l'horreur dans le pays. Une vague d'indignation de la part des médias locaux et des militants exige des réformes immédiates pour protéger les femmes de la violence domestique et pour bannir le mariage forcé. Dans certaines régions du pays où le système patriarcal et tribal règne, des hommes frappent brutalement leurs femmes, filles ou sœurs sans avoir aucune peur des lois existantes. Malheureusement, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires sont incapables de leur faire face. Mona avait été obligée de se marier à l'âge de 12 ans.
Toujours l'Iran, où 2 hommes ont été pendus pour homosexualité. L'agence de presse des militants iraniens des droits de l'homme a révélé l'exécution de Mehrad Karimpour et Farid Mohammadi, alors qu'ils avaient été arrêtés et jugés pour sodomie il y a 6 ans. C'est la 2e fois en l'espace de 7 mois que des exécutions ont lieu sous le même motif. L'homosexualité est le sujet tabou par excellence en Iran. Les médias ainsi que l'autorité judiciaire n'ont d'ailleurs pas rendu compte des 2 dernières exécutions. L'affaire a toutefois suscité une vague d'indignation sur les réseaux. Les 2 hommes ont été exécutés alors que les représentants du régime iranien auprès des Nations Unies continuent de nier l'application de la peine capitale aux homosexuels.
Justyna Wędrzyńska, une défenseure polonaise des droits humains, encourt 3 ans d'emprisonnement pour avoir aidé une femme enceinte qui souhaitait avorter en toute sécurité à obtenir des médicaments abortifs. La Pologne a l'une des législations sur l'avortement les plus restrictives d'Europe. L'avortement n'y est légal que lorsque la santé ou la vie de la personne enceinte est en danger ou lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. Il faut que les autorités polonaises abandonnent immédiatement toutes les charges pesant sur elles et dépénalisent totalement l'avortement, y compris l'aide à l'avortement.
Les autorités marocaines ont durci le harcèlement visant les défenseurs et défenseuses et des militants et militantes des droits humains au cours des 2 derniers mois. Au moins 4 d'entre eux font l'objet d'informations judiciaires et de poursuites pénales liées à des publications sur les réseaux sociaux critiques à l'égard des autorités. Ainsi, la défenseure des droits humains, Saïda El Alami, a comparu devant un tribunal de Casablanca le 8 avril pour répondre d'accusations en lien avec des publications dans lesquelles elle dénonçait publiquement le harcèlement policier à son encontre et critiquait la répression visant les journalistes et les militants. Amnesty appelle les autorités à libérer immédiatement et sans condition Saïda El Alami et à abandonner toutes les charges retenues contre elle. La police doit cesser d'interroger et de poursuivre des militants au seul motif qu'ils exercent leur droit à la liberté d'expression.
Entre les 27 et 31 mars 2022, les opérations menées par les forces armées maliennes visant des groupes armés ont abouti à la mort de nombreux civils à Moura, dans le centre du Mali. D'après les témoignages recueillis par nos organisations, de nombreux civils, notamment des forains et des habitants du village, ont été tués au cours de cette opération qui s'est déroulée pendant et après la foire hebdomadaire de Moura. Moura. Et alors que les forces armées avaient procédé à 5 jours de blocus autour du village, l'État malien a le devoir de faire toute la transparence dans la conduite de ses opérations militaires.
Allez, on va finir par une bonne nouvelle. On en a besoin. Ouf. Bernardo Calxol a été libéré. Après plus de 4 ans passés injustement en prison, ce défenseur de l'environnement et des droits des peuples autochtones a été libéré le 24 mars au Guatemala. Bernardo était un prisonnier d'opinion condamné à plus de 7 ans de prison pour avoir milité pacifiquement contre la construction de 2 centrales hydroélectriques sur un fleuve sacré pour sa communauté, les Maya Ketchi. Après avoir vu leur forêt rasée pour la construction de centrales, Bernardo et d'autres membres de la communauté ont tout risqué pour faire entendre leur voix. Le Guatemala est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits des peuples autochtones à la terre, au territoire et à l'environnement. Nous avions écouté il y a un mois une nouvelle chronique de Céline nous contant en plusieurs épisodes l'épopée d'Amidou, un jeune migrant ivoirien. Nous l'avions laissé en Algérie. Voici la suite de son histoire.
Bonsoir Valérie. Avec cette chronique du mois d'avril, nous retrouvons Amidou, le jeune garçon qui seul a fait le voyage vers l'Europe. La dernière fois, nous l'avions laissé en Algérie après un périple incroyable d'un mois entre la Côte d'Ivoire et Tamanrasset. Périple qui lui a fait traverser le Burkina Faso et le Niger. Rappelle-toi, il est déjà depuis 4 mois à Alger, travaillant un peu pour se nourrir et surtout pour payer la traversée. Quand l'argent est récolté, il prend un bus vers Oran et il rejoint des passeurs qui doivent, avec d'autres, les faire traverser la frontière. Il leur faudra plusieurs jours et plusieurs tentatives pour la franchir. L'exil leur apprend durement la patience. Arrivés à Oujda, les passeurs, qu'ils qualifient maintenant de mafia, emmènent le groupe dans une maison. C'est là qu'auront lieu les négociations pour préparer la traversée vers l'Espagne. L'attente est longue, les heures interminables. Enfin, c'est un bus qu'ils emprunteront vers Nador, là où le départ en bateau doit se faire. Et de nouveau, il faut attendre dans une forêt, et quotidiennement, il faut déjouer les poursuites de la police. Les échecs sont nombreux, car Amidou estime à 2 mois ce temps ponctué de chasse à l'homme et de retour vers une maison, servant de base arrière pour un peu de repos en attendant la tentative suivante. Et puis, le jour est arrivé et ce sera le départ.
Ah, c'est toujours poignant les chroniques de Céline. J'ai hâte de savoir la suite de celle de la traversée. Et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Oui, le mercredi 27 avril à 20h à la Chapelle des Ursules, un concert est donné au profit de la Croix-Rouge pour venir en aide aux populations ukrainiennes. C'est l'ONPL qui proposera des œuvres de Bach.
Jeudi 28 avril, conférence gesticulée à la MPT de Montplaisir. C'est à 20h30 et c'est sur le thème de l'identité.
Le jeudi 5 mai à 20h, allez voir au 400 coups animal de Cyril Dion. Le film sera suivi d'un débat autour du thème de la décroissance en présence de membres de Génération Écologie.
Le lundi 9 mai, toujours au 400 coups, vous pourrez voir l'Empire du silence. C'est un documentaire qui retrace le chemin de croix entamé par le peuple congolais depuis plus de 25 ans. C'est un plaidoyer en faveur de la justice afin que soient jugés les responsables de crimes de guerre et reconnu le droit des victimes congolaises. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 sera là en personne.
Formidable. Ouais. Et réservez dès maintenant votre samedi 14 mai pour la Pride d'Angers, bien sûr. Et il est presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Amélie et Nathan pour sa venue à l'émission. N'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page de Amnesty.Angers. Bonne soirée et vivons joyeux.
À bientôt.
À bientôt.